VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde aujourd'hui, édition du vendredi 9 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, la défense a demandé l'acquittement du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch de 2015.
En Tunisie, le premier ministre Youssef Chahed est candidat à la présidentielle du 15 septembre.
En Égypte, les autorités disent avoir tué 17 terroristes dans des opérations liées à l'attentat qui a fait 20 morts dimanche au Caire.
Ici aux États-Unis, le puissant lobby des armes, la NRA, réaffirme son opposition à un renforcement des contrôles sur les ventes d'armes après les fusillades de Dayton et d'El Paso.
Plus de 2 millions de musulmans entament aujourd'hui en Arabie Saoudite le Hajj ou pèlerinage annuel à la Mecque.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, la défense du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de septembre 2015, a demandé hier son acquittement. Le point avec Eric Manirakidza.
D'après Maître Jean Degli, un des avocats du général Gilbert Diendéré, le parquet militaire n'a pas été capable d'apporter des preuves qui font du général Diendéré l'auteur de tous les crimes qu'on lui impute. Le général Diendéré, qui avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et à l'armée loyaliste, est poursuivi pour attentat à la sûreté de l'État, trahison, meurtre et coups et blessures. Le procureur du tribunal militaire de Ouagadougou a requis la prison à vie à son encontre mercredi lors de sa dernière comparution à l'issue des plaidoiries de ses avocats. Le général Diendéré a plaidé la clémence des juges, se disant toujours disposé à servir le pays. 84 accusés sont jugés depuis février 2018, dont le général Diendéré, principal accusé de ce putsch manqué qui avait fait 14 morts et 270 blessés.
En Tunisie, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle du 15 septembre. C'est ce vendredi la clôture des inscriptions, Abdourahmane Dia.
J'ai décidé de me présenter pour le poste de président de la République, a annoncé le plus jeune premier ministre de Tunisie. Il déposera sa candidature aujourd'hui auprès de l'instance indépendante chargée des élections. Son parti, Tahia Tounes, représente la deuxième force au Parlement derrière Ennahda. Ingénieur agronome de 43 ans, Youssef Chahed a été nommé en 2016. Ces derniers mois, sa popularité a chuté face aux luttes de clans et aux difficultés de son gouvernement pour résorber l'inflation et le chômage. Jusqu'à hier, 56 prétendants ont déposé leur dossier, dont le chef du Parlement par intérim, Abdel Fattah Mourou, le candidat du parti Ennahda. Le magnat des médias Nabil Karoui se présente comme le candidat des plus démunis. Abir Moussa, militante des droits humains, s'est également jeté dans la course. Et pour la première fois, l'avocat Mounir Batour, qui affiche ouvertement son homosexualité, a fait acte de candidature. Le 31 août, l'instance électorale annoncera les candidats retenus pour participer à la présidentielle du 15 septembre.
En Algérie, le chef de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, a estimé hier que les revendications fondamentales du mouvement de contestation sont satisfaites. Pour lui, il est temps de passer à l'élection présidentielle. Le point avec Irénée Herman Oumbo.
L'armée qui a accompagné depuis le début les revendications du peuple algérien considère qu'elles ont été entièrement réalisées, a déclaré le chef d'état-major dans un communiqué. Certains groupes s'acharnent à rejeter toutes les initiatives présentées et tous les résultats obtenus. Ils scandent des slogans tendancieux et lancent des appels douteux, a-t-il ajouté. Le général Ahmed Gaïd Salah a non seulement exhorté les médias nationaux à ne pas succomber aux tromperies des ennemis de la nation, mais plutôt de contribuer de manière constructive, efficace et positive au processus national décisif. Il a par ailleurs salué le travail de l'instance nationale de dialogue et de médiation chargée par le président par intérim Abdelkader Ben Salah de mener des consultations sur les modalités de la future présidentielle. Une présidentielle prévue début juillet n'a pu être organisée faute de candidats.
En Égypte, les forces de sécurité ont dit avoir tué hier 17 terroristes lors d'une opération contre des suspects qui seraient impliqués dans l'attentat ayant fait 20 morts dimanche au Caire. Selon le ministère de l'Intérieur, ces terroristes appartenaient au groupuscule Hasm, considéré par les autorités comme proche des frères musulmans, une confrérie interdite et sévèrement réprimée en Égypte. Lundi, le président Abdel Fattah al-Sissi a affirmé qu'une collision entre plusieurs voitures dimanche au Caire était un acte terroriste, l'un des véhicules ayant été chargé d'explosifs.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a licencié hier sa ministre du Tourisme et de l'Environnement, Priska Mupfumira. Aucun détail n'a été fourni quant à son limogeage. Pour rappel, elle avait été arrêtée il y a 2 semaines en rapport avec la disparition de près de 100 millions de dollars alors qu'elle était ministre de la Protection sociale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le puissant lobby américain des armes, NRA, a exprimé jeudi son opposition à des réformes visant à renforcer les contrôles sur les ventes d'armes, réformes réclamées par de nombreux acteurs depuis les fusillades meurtrières du week-end dernier. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Selon le Washington Post, l'influent directeur général de la National Rifle Association, le puissant lobby des armes aux États-Unis, Wayne LaPierre, s'est entretenu mardi avec le président Donald Trump pour lui rappeler que sa base de supporters n'appréciait pas les réformes en discussion au Congrès. Avant son échange avec Wayne LaPierre, Donald Trump avait évoqué dans un tweet son soutien à ces réformes, mais il n'est pas revenu sur le sujet, se contentant de prôner une réforme pour confisquer les armes des personnes jugées dangereuses par leur entourage. Le patron de la NRA a par ailleurs écrit sur Twitter que les propositions en discussion n'auraient pas empêché les tragédies horribles d'El Paso et de Dayton. Ces villes du Texas et de l'Ohio ont été le théâtre le week-end dernier de 2 fusillades qui ont coûté la vie à 31 personnes et fait une 50aine de blessés. Depuis, la pression monte sur le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, pour un vote sur 2 propositions de loi adoptées en février par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. Ces textes prévoient d'étendre les contrôles des antécédents des acheteurs à l'ensemble des transactions, y compris aux ventes d'armes en particulier ou lors de foires aux armes, et d'allonger à 10 jours la durée avant la livraison des armes. 214 maires républicains et démocrates ont écrit à Mitch McConnell pour lui demander d'interrompre les vacances parlementaires pour faire voter ces réformes en urgence. Ce dernier a simplement exclu de rappeler les sénateurs.
Toujours aux États-Unis, des dizaines de travailleurs migrants ont été libérés 24 heures après que des agents fédéraux ont arrêté mercredi 680 clandestins dans des raids dans des usines du secteur avicole dans le Mississippi, soit la plus grande opération de ce genre depuis 10 ans aux États-Unis. Selon les autorités, plus de 300 d'entre eux, dont des femmes enceintes et des mineurs, ont été libérés pour des raisons humanitaires. Ils doivent toujours comparaître devant un juge. Ils sont pratiquement tous originaires d'Amérique latine. Ces raids, a-t-on précisé, étaient en préparation depuis un an.
Le président Trump a par ailleurs annoncé hier son intention de désigner Joseph Maguire comme chef intérimaire des services de renseignement pour remplacer Dan Coats, qui quittera ses fonctions le 15 août. L'amiral Maguire est actuellement directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. M. Trump avait annoncé auparavant que l'actuel numéro 2 des services de renseignement, Susan Gordon, quitterait ses fonctions le 15 août, en même temps que Dan Coats.
Le Pakistan a écarté hier le recours à la force face à l'Inde, qui a révoqué lundi l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu'elle contrôle et qu'Islamabad revendique. Selon le ministre des Affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, le Pakistan examine plutôt des options politiques, diplomatiques et juridiques. Le Pakistan, qui a déjà mené 3 guerres face à l'Inde, dont 2 autour du Cachemire, a qualifié lundi d'illégale la décision de New Delhi, qui a enflammé la sphère politique et les réseaux sociaux.
Plus de 2 millions de musulmans entament ce vendredi en Arabie Saoudite le pèlerinage annuel à la Mecque, et les autorités ont mis en garde contre toute tentative de politisation de ce rassemblement religieux sur fond de tensions persistantes dans le golfe persique. Des dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter tout nouveau drame lors du pèlerinage endeuillé dans le passé par des bousculades sanglantes, la plus meurtrière ayant fait en 2015 près de 2300 morts lors du rituel de la lapidation de Satan. Nous reviendrons sur le Hajj en seconde partie de cette édition.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Les bénéfices du groupe anglo-américain AngloGold Ashanti connaissent une hausse de 21% suite à la bonne performance de sa co-entreprise Kibali, à la baisse des coûts et au prix élevé de l'or qui ont permis de compenser la baisse de sa production en Afrique du Sud. Kibali, en République démocratique du Congo, est parmi ses mines les plus performantes et est co-détenue par AngloGold, Barrick Gold et la société minière de Kilomoto, une entreprise publique de la RDC. MTN Group a levé 2,1 milliards de rands provenant de la vente d'actifs dans le cadre d'un plan de désinvestissement annoncé en mars. Au premier semestre de cette année, MTN a vendu son prêt d'actionnaire ATC Ghana à American Tower Corp pour 900 millions de rands ainsi que ses participations dans le fonds d'investissement Amadeus et le site de réservation Travestat pour 1,2 milliard de rands. MTN veut se concentrer sur les marchés à forte croissance du Moyen-Orient et de l'Afrique. Terminons cette minute éco avec l'Égypte où l'inflation annuelle des prix à la consommation en milieu urbain a diminué pour s'établir à 8,7% en juillet contre 9,4% en juin et contre 13,5% en juillet 2018 selon l'agence officielle de statistiques CAPMAS. C'est son plus bas niveau depuis près de 4 ans. C'est une bonne nouvelle pour les marchés car cela renforce l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt en août.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Christian Sengui Biembe, désigné sélectionneur des Léopards de la RDC.
Oui, jusque-là, directeur technique national en charge de la jeunesse, Christian Sengui Biembe va être officiellement présenté aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Il prend les rênes de la sélection nationale en remplacement de Florent Ibengue qui a démissionné mercredi et qui l'avait déjà secondé. Pourquoi ce choix? Le ministre des Sports Jean-Pierre Lisanga Boganga explique.
Nous avons analysé et nous nous sommes dit il ne faut pas toujours commencer en retard. Nous devons les confirmer pour qu'on avance. Nous sommes des nationalistes. Il y a des Congolais qui ont des diplômes, qui ont de l'expertise et des qualités requises pour l'exercice de cette fonction. Nous l'avons confirmé. Monsieur Christian Sedibieme, désormais, c'est lui qui fait l'intérim et c'est lui qui travaille comme sélectionneur national.
Mais il était déjà l'entraîneur de U23, c'est-à-dire des joueurs de moins de 23.
Oui, et ni peut-être ce qui s'était passé pour des raisons administratives, il a amené le U23 très loin. Pourquoi ne pas les confirmer? Parce que nous avons une valeur locale. Nous avons de l'expertise avec Sengibé. De la même manière qu'on a essayé avec Ibengue, de la même manière nous allons essayer avec Sengibé.
Il n'est qu'intérimaire, il restera pour combien de temps et quels sont les objectifs lui assignés?
La décision de la FIFA est là. Ce qui est important pour ce soir, c'est de confirmer l'information. Sengibé est là, aujourd'hui désigné comme sélectionneur national.
Jean-Pierre Lisanga Boganga, ministre congolais des Sports, au micro d'Eddy Issangou.
Transfert en football, Ismaïl Assar quitte Rennes pour Watford.
L'ailier sénégalais de Rennes s'est engagé avec Watford pour les 5 prochaines saisons. Selon France Football, Watford a déboursé environ 35 millions d'euros pour attirer le joueur âgé de 21 ans. De son côté, l'Inter de Milan a officialisé l'arrivée de l'attaquant international belge d'origine congolaise, Romelu Lukaku, en provenance de Manchester United. À 26 ans, il a signé un contrat de 5 ans contre 65 millions d'euros, plus 10 millions au moins de primes et bonus, selon la presse italienne. Le Brésilien de Chelsea, David Luiz, s'est engagé avec les Gunners. Chelsea et Arsenal sont tombés d'accord pour un transfert de 8,5 millions d'euros, d'après la presse anglaise.
En basketball, le Mali se prépare pour l'Afro-Basket Dame.
La capitale sénégalaise Dakar accueille la crème féminine de la balle au panier du 10 au 18 août prochain. Le Mali partage la même poule que l'Angola et la R du Congo. Pour le coach malien, tout est mis en œuvre pour que son équipe rajeunie aille le plus loin possible dans le tournoi.
L'objectif, c'est d'aller en demi-finale. On est une équipe jeune. Il ne faut pas que la jeunesse soit un inconvénient. Il faut que la jeunesse soit un avantage. L'expérience va compter aussi parce qu'il y a 2 matchs de moins par rapport au dernier format de la Coupe d'Afrique. Donc, il faut être tout de suite prêt et dans le vif du sujet. C'est là où on travaille beaucoup sur le mental de nos joueuses, d'avoir des jeunes joueuses intelligentes et avec beaucoup de maturité.
Sylvain Loutier, coach du Mali, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, la loi sur les manifestations publiques a été modifiée ce 7 août 2019 par l'Assemblée nationale. Pour le gouvernement, c'est le contexte sécuritaire fragile dans la sous-région du fait du terrorisme qui l'a poussé à opter pour des restrictions sur la liberté de manifestation. La société civile crie à une loi liberticide. Reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Il est interdit de manifester dans des zones dites à forte activité économique et dans les centres urbains sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est l'une des restrictions de la nouvelle loi sur les manifestations publiques au Togo. C'est une totale révision de la loi de 2011 pour Fabi Kwasi, militante des droits humains.
En résumé clair, les Togolais sont interdits d'exprimer tout sentiment de mécontentement par le biais de manifestations publiques. Mais ça ne devrait pas étonner. Et autre mesure parce que c'est la marque de fabrique de tout régime non démocratique d'être abonné à ces genres de dérives liberticides.
La mesure ne passe pas non plus du côté de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Maître Célestin Agbogan, président de la LTDH.
La Ligue togolaise des droits de l'homme s'indigne profondément vis-à-vis de cette modification qui constitue une entrave grave à la liberté de manifestation et qui viole les dispositions de l'article 30 de notre Constitution. Alors, lorsqu'il y a une loi qui interdit systématiquement des manifestations sur les routes nationales, devant les institutions de la République, dans les environs des chancelleries, il n'y a même plus d'endroits où on pourrait manifester. C'est grave dans un pays qui se veut démocratique. On a l'impression que nous sommes toujours en dictature.
La sérénité a quitté le rang du pouvoir d'après le professeur David Dosset du Front Citoyen Togo Debout.
Tout cela traduit, selon moi, un manque de sérénité parce qu'un pouvoir qui estime qu'il est légitime, qu'il a le soutien populaire, n'a pas besoin autant de restreindre les libertés. Le pouvoir donc togolais va jusqu'au bout de sa logique, restreindre les libertés au maximum et espérer ainsi baliser la route vers un succès garanti en 2020. Et je crois que c'est là où peut-être ce pouvoir se trompe.
En 2020, Forne Singbe pourrait encore empiler, ce qui peut être source de contestation. Les manifestations de dizaines de milliers de personnes en 2017 et 2018 sont encore fraîches dans les mémoires. Fabi Kwasi.
Moi, je pense que c'est par rapport à 2020. 2020 qui est une année électorale et donc une année où M. Forne Singbe l'orne de rempiler pour un quatrième mandat, un mandat antidémocratique. C'est l'enjeu majeur. Et donc les tenants du régime sont dans l'anticipation même de la contestation populaire par rapport à ce mandat de trop.
La Ligue togolaise des droits de l'homme compte mener des actions. Maître Célestin Agbogan.
Nous allons saisir les organisations internationales qui luttent pour la défense des droits de l'homme pour que leurs autorités reviennent sur leurs décisions. Parce que lorsqu'il y a un pouvoir qui ne veut pas confier la liberté à ces populations, la population lutte pour arracher cette liberté-là. Et donc, lorsque nous allons mener des actions diplomatiques, si ça ne prospère pas, nous allons mener des actions populaires. Parce qu'on ne veut pas interdire à un peuple de revendiquer ses droits. On ne veut pas interdire à un peuple d'acquérir sa liberté. Donc, le peuple va arracher sa liberté.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retour sur le suspense que maintient en Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara quant à son éventuelle candidature à la présidentielle d'octobre 2020, alors qu'il achève un second mandat à la tête du pays. Dans une interview télévisée, M. Ouattara a promis d'annoncer sa décision en 2020. Quelques réactions dans ce micro-trottoir réalisé par Aïcha Diarra à Bouaké.
Mais si ça ne tenait qu'à moi, je souhaiterais qu'il y ait un troisième mandat pour pouvoir recadrer les choses. Puisque rien n'a été pour le moment clair au niveau du gouvernement, au niveau de la population. Puisque je me suis dit que si aujourd'hui Alassane n'est pas au pouvoir, quel sera notre sort, nous, population lambda?
Il n'aura donné sa position, mais 2020 dépend de ça. Le président doit penser à unir les Ivoiriens, faire de sorte à ce que les Ivoiriens puissent soigner cette plaie-là. Actuellement, tout le monde a la haine dans le cœur, lui doit savoir ça.
Compte tenu de la situation, et je pense qu'il sera préférable qu'il se présente pour la bonne marche de l'économie qu'il a entamée et la stabilité qu'il a fait procurer au pays et que nous voyons vraiment le pays où tout est beau partout, Et vraiment, il pense qu'il faut la féliciter.
Sa position, pour le moment, c'est tout à fait normal. Il faut toujours se réserver. Il ne faut pas aller trop vite dans, tu vois, en besogne. Sinon, nous sommes pour le troisième mandat. Parce que ça nous arrange. Il travaille pour le pays. Voilà. Si on fait vraiment l'état de tous les chefs d'État qui sont passés, nul n'a pu réaliser cet effort que Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire.
Et sincèrement, je pense qu'il a déjà beaucoup fait. Et pour que la stabilité de ce pays reste comme on l'a déjà vu durant ces 10 ans-là, je préfère sincèrement qu'il laisse le pouvoir à une autre personne.
Pour ma part, pour un troisième mandat, c'est pas mauvais. Mais avec son âge, peut-être c'est de laisser peut-être à la nouvelle génération qui vient. Peut-être qu'il n'a pas fini, il va recadrer un peu les choses. Et puis bon, parti maintenant. Selon moi, en fait. Bon, pour le moment, il est un peu sceptique parce qu'il y a déjà, on voit déjà un problème qui vient avec les deux opposants là. Peut-être pour régler ça, et puis maintenant, se faufiler maintenant.
Moi, je pense que c'est la meilleure manière. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il a bien précisé, c'est en fonction de la nomenclature, c'est-à-dire la situation du pays, il va se décider. Le temps est un peu encore long. Donc, il faut se donner le temps de réfléchir encore pour voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Il a déjà fait 2 mandats, non ? N'a qu'à son pays. Il faut qu'on puisse le respecter, quoi. On passe à autre chose.
Voilà, ce qui me fait mal pour lui, là, il a pris le pouvoir et puis il a agi. S'il était, il avait 40 ans, 50 ans, là. Nous, même, on aimerait qu'il n'a qu'à faire 80. Comme il a agi, ça dépend de lui. S'il peut continuer, il n'a qu'à continuer. Nous, même, on est derrière lui.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Burkina Faso, la défense du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du coup d'État manqué de septembre 2015, demande son acquittement au procès des putschistes présumés. Lors d'une conférence de presse hier, les avocats du général Diendéré ont affirmé que le parquet militaire n'a pas été capable d'apporter des preuves qui font de leur client l'auteur de tous les crimes qu'on lui impute. Au total, 84 accusés sont jugés depuis février de l'année dernière. Le putsch manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. De Ouagadougou, le compte-rendu de Lamine Traoré.
Le général Gilbert Diendéré n'est pas l'auteur du coup d'État de septembre 2015 au Burkina. C'est ce qu'ont annoncé ses avocats. Selon eux, jusqu'aujourd'hui, le parquet militaire n'a pas pu démontrer la culpabilité du général. Dans ce push, Maître Jean Degli, l'un des avocats de Diendéré.
Sur le plan des preuves qui doivent soutenir les accusations contre l'accusé, le parquet militaire, malgré tous les moyens d'État dont il a disposé et usé, a été radicalement incapable de prouver véritablement la culpabilité du général Diendéré au-delà de tout doute raisonnable, comme l'exigent les standards internationaux et nationaux d'un état de droit.
Et des principes du procès ont été violés selon l'avocat.
En dehors du caractère public du procès, de la possibilité qui lui a été donnée d'être entendu par la juridiction de jugement, la plupart des principes élémentaires d'une justice équitable ont été malheureusement littéralement violés.
Pour l'un des avocats, le général n'a fait que sauver les meubles. Il pourrait y avoir pire que cela en 2015. Maître Paul Kéré.
Heureusement que le général Diendéré a pris les devants pour canaliser les jeunes. Sinon, à la date de ce jour, on serait peut-être engagé dans une guerre civile pour que ces jeunes-là seraient toujours aujourd'hui au pouvoir. Parce qu'ils n'auraient pas fait de détails. Moi, j'ai eu la chance de faire le Sénèque, qui est devenu le régiment de sécurité présidentiel. Et la mentalité que nous avons appris au Sénèque, on ne recule jamais.
La société civile, elle veut la lumière, rien que la lumière dans ce procès. Le général a sa part de responsabilité dans le coup d'État.
On peut dire dans tous les cas que dans ce putsch, même s'il n'est pas auteur, il est au moins complice. À l'époque, tout le monde sait que c'est Diendéré.
Mathias Tankwano, porte-parole du M21.
D'après Norbert Zongo, quand un homme dit de tuer, il faut avoir le courage de dire c'est moi qui dis de tuer. Il faut que Diendéré assume. S'il avait assumé, peut-être qu'on n'était plus là.
Le procès connaîtra bientôt son verdict. Hier, le général Gilbert Diendéré a réitéré ses compassions pour les personnes qui ont perdu la vie lors des événements de septembre 2015. Il s'est dit engagé à aider les autorités burkinabè dans la lutte contre le terrorisme. Du fond de ma cellule, je suis disposé à apporter ma contribution pour la défense de ma patrie. Je ne suis pas un traître et je ne trahirai jamais mon pays, a dit le général Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Libreville, la capitale du Gabon, croule sous l'état d'immondice. La raison, la compagnie chargée du ramassage des ordures ménagères a interrompu ses opérations. Elle exige de l'État le paiement d'une dette vieille de 2 ans. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Excédé de voir les poubelles s'entasser partout à Libreville, les riverains tentent de s'en débarrasser en y mettant le feu. Une méthode peu efficace, cela fait plus d'une semaine que les ordures polluent la vie des populations.
Est-ce que c'est normal un pays comme ça? Et on lui dit non, on est un pays émergent, on nous raconte des conneries, des tories. Et pendant ce temps, le peuple croupit dans la misère. C'est inadmissible.
On ne peut pas donner tort à la société à Verdun. Moi, personnellement, quand ils ont commencé, c'était carrément le travail était nickel, quoi. Mais depuis un moment, c'est pas ce qui se passe. Si c'est par rapport au sous, où l'État les doit, mais qu'il remédie à la situation.
La société Averda chargée de la collecte et du ramassage des ordures ménagères a en effet interrompu ses activités depuis plusieurs jours. Elle réclame à l'État gabonais 24 milliards de francs CFA de prestations impayées. Nicolas Ashkar est directeur chargé du développement du groupe Averda.
Aujourd'hui, on a besoin d'un plan sur la dette, le remboursement de la dette, et un paiement immédiat pour pouvoir reprendre le travail. La trésorerie, elle est à zéro, la Averda Gabon, et on a besoin de payer les salaires de 700 employés, rembourser les fournisseurs, la dette vis-à-vis des banques. On ne peut pas démarrer sans qu'on ait un paiement conséquent.
Les camions poubelles sont au garage et plus aucun éboueur dans la rue. Pour les autorités municipales partenaires de la société incriminée, son rendement n'est plus à la hauteur des attentes. Léandre Zuier, maire de Libreville.
C'est vrai qu'Averda réclame une dette colossale à l'État, mais je dis qu'Averda n'a pas rempli son cahier de charges. Parce que le cahier de charges d'Averda disait que non seulement la collecte des ordures ménagères, le bassin versant et puis le curage des caniveaux. Ils ne font que la collecte des ordures ménagères, les deux autres ils ne le font pas. Mais ils sont payés à hauteur de entre 400 et 500 millions, ce qui n'est pas normal. Je crois savoir que c'est vrai qu'ils réclament la dette, mais ils n'ont pas rempli leurs obligations. Mais pour ce qui me concerne, que ce soit Averda ou Clean Africa, c'est des sociétés qui ne font pas leur travail. Et si ça ne dépendait que de moi, nous allons résilier le contrat.
La mesure de rétorsion d'Averda visant à contraindre l'État à payer sa dette aura-t-elle la chance d'aboutir? Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Plus de 2 millions de musulmans entament le Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque. Souvent, ces pèlerins venus du monde entier sont confrontés à de nombreuses difficultés, comme par exemple marcher de longues distances en bravant des températures très élevées. Le pèlerinage, un des piliers de l'islam, est également une manne financière pour les Saoudiens. Mohamed Touré s'est entretenu hier, jeudi, avec le professeur Daouda Doumbia, enseignant à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Cette année, on attend un peu plus de 2000 de pèlerins. Ce n'est pas le Hajj proprement dit demain, mais c'est déjà le démarrage du pèlerinage, parce que c'est demain qu'il y a le grand mouvement de la Mecque vers Mina.
Pourquoi ce pèlerinage importe?
Ce pèlerinage est très important dans la mesure où ça constitue le cinquième pilier de l'islam. C'est une obligation. Mais quelle obligation? Pour qui en a les moyens? Et pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens, pas du tout. Voilà, c'est pour compléter le cinquième pilier de l'islam.
Voilà, quelques années, ils ont eu des difficultés au lieu de pèlerinage. Et cette année, que compte faire le gouvernement saoudien pour éviter les mêmes incidents?
Il faut le dire, chaque année, le gouvernement saoudien entreprend de larges réorganisations, à commencer par les rues et les allées, les retours, et aussi initier les pèlerins. Je ne sais pas si ça se passe au Mali, mais dans certains pays, il y a même des délégations, disons, du royaume qui vont expliquer et pratiquement essayer d'initier les gens au va-et-vient, au mouvement dans la vallée de Mina. Parce que vous savez, une vallée d'à peu près 10 000 à 20 000 km², s'il faut y concentrer 2 à 3 millions de personnes, c'est pas si facile.
Au terme économique et financier, 2 millions de personnes, de pèlerins, c'est beaucoup de dépenses. Et du coup, pour renflouer les caisses de l'État saoudien au plan de vue touristique, que pensez-vous?
Effectivement, une grande manne financière, un revenu, disons, pour non seulement le gouvernement saoudien, le pays, mais aussi une activité pour tous ceux qui résident ici, aussi bien les nationaux que les étrangers. Parce que chacun y va, disons, de son compte, des activités commerciales, des sports. Il y a toute une gamme d'activités en marge ou à l'intérieur même de la période du pèlerinage.
Joint hier jeudi à Jeddah, le professeur Daouda Doumbia, enseignant dans cette ville saoudienne. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Et Drissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.